Bonjour Alexandre Drouet, comment allez-vous?
Bonjour, ça va très bien.
Oui, est-ce qu'on vous parle depuis Bruxelles?
Oui,
ouais.
Enfin près de Bruxelles, mais
près de Bruxelles.
Ouais.
Bon.
Donc ici, c'est le soir.
C'est le soir, 6 heures de plus. Alors, mais vous connaissez un peu le Québec, vous êtes déjà venu. J'ai vu que vous êtes venu l'an dernier dans le cadre du festival Vue sur la relève qui avait lieu en début mai à Montréal, le 13 plus précisément dans votre corps Monument national avec la pièce que nous allons voir.
Oui, Paul Montrix, oui, donc.
Et ça s'était bien déroulé?
Oui, très bien, très bien. C'est une découverte pour moi, j'ai adoré la ville. Voilà.
Ah, puis là, ben, vous allez plus qu'adorer Québec.
Ah, ben, j'espère.
Oui, qui est tellement francophone à 97%. Alors, vous venez cette année dans le cadre, dans le contexte de la Bourse Rideau, vous aurez une vitrine, et vous avez été amené, Alexandre, à former ce qu'on appelle le projet Cryotopsie, où vous
oui.
abordez, semble-t-il, souvent des problématiques que vivent les jeunes, par exemple des adolescents. Et donc, vous semblez avoir un théâtre qui, en ce sens-là, est quand même assez engagé.
Oui, engagé. Alors, je me méfie toujours un peu du mot engagé.
Oui, moi aussi, on s'entend.
Ça pourrait sous-entendre qu'on a des messages à délivrer,
oui, oui.
Ce qui n'est pas du tout ça. Mais par contre, c'est sûr que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'interroger ce qui se passe à l'heure actuelle avec les nouvelles technologies et la façon dont ça modifie les rapports entre les gens. Et du coup, un peu, en fait, les gens aussi, je crois, d'une certaine manière, sont modifiés par Internet, par les téléphones portables, par le fait d'être tout le temps connecté. Et du coup, on explore ça. Et c'est vrai que forcément, ça nous amène aussi à parler souvent des adolescents, de l'adolescence, puisque ce sont les natifs numériques qui vivent là-dedans, qui ont moins de recul là-dedans. Donc c'est assez passionnant aussi de s'interroger là-dessus par rapport à ma génération qui, j'ai été adolescent sans Internet et sans téléphone portable, quoi.
Moi aussi, mais je vous comprends. Et vous avez fait donc précédemment une pièce qui s'intitulait « Dans le ventre ».
Oui.
Oui. Et ça portait sur un jeune ado, un garçon cette fois-ci. Là.
Oui, c'est ça. Ça, c'était... Après, il y avait toujours ces thématiques-là qui sont liées, qui sont en fond. Mais c'était donc l'histoire d'un jeune qui est un peu délinquant, qui fait des petits vols, et puis qui un jour, pour voler un iPhone dans une station de métro, va poignarder, sans trop réfléchir, va poignarder la personne à qui il essaye de voler l'iPhone, et du coup va se retrouver dans ce qu'on appelle ici les IPPJ, c'est-à-dire des espèces de centres de détention pour mineurs. Et voilà, et le spectacle s'intéressait à la fois à comment ce genre de choses peut arriver et aussi à comment lui va s'en sortir. Enfin bon, voilà, c'est une fiction, hein, mais comment il peut s'en sortir, quelles sont les pistes par rapport à ça. Et c'est sûr que le spectacle explorait aussi toute cette question, tout ce rapport à la technologie, à Internet, à la pornographie aussi. On parlait déjà de ça. Un peu dans ce spectacle-là, parce que ce sont vraiment des thématiques qui, moi, me tiennent à cœur.
Je voulais être certain du sens de cryo. Alors, j'ai fait un peu de recherche sur l'origine étymologique de cryo. C'est bien cela, ça renvoie à jeux vidéo et à cette interactivité qui en découle.
Oui, alors, nous, après, donc, quand on avait créé le Cryotopsie, c'est vrai, au départ, c'était un jeu de mots entre cri et autopsie, c'est-à-dire que moi j'aimais bien cette idée de faire des spectacles qui à la fois il y a le côté cri, donc il y a le côté colère, il y a le côté émotion, mais en même temps il y a le côté autopsie, c'est-à-dire qu'on va quand même essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé sans se contenter simplement du résultat, de ce qu'on voit au final, mais en essayant vraiment de comprendre tiens comment on en est arrivé là. Et en essayant de disséquer un peu les événements dont on parle, donc d'avoir à la fois le côté émotion, colère, et aussi le côté plus analyse, réflexion.
Parce qu'en termes de vocabulaire de théâtre, il y a bel et bien la tragédie, s'il n'y a pas nécessairement mort physique d'une personne, d'un adolescent, d'une adolescente, il y a la mort de son enfance, il y a la mort de ses rêves, de ses ambitions.
Oui, et une renaissance. Donc j'aime bien aussi... Après, c'est vrai que moi, j'aime bien un peu bousculer les genres. J'essaie de pas trop me tenir, surtout quand là, on fait... Parce que là, du coup, dans le ventre, c'était un spectacle pour les adolescents. Ça parlait d'adolescents, mais c'était aussi joué dans des écoles.
Oui.
Donc du coup, c'est vrai que ça m'intéresse aussi de casser un peu les genres et de me permettre de faire quelque chose qui est drôle et puis qui, juste après, va être complètement déchirant. Enfin, voilà, j'essaye un peu de pas trop m'enfermer dans des styles. Ouais,
alors là, dans le contexte de la Bourse Rideau, donc dans à peu près 2 semaines, vous venez présenter, ça s'appelle « Plainte contre X », voilà, et le texte est de Karine Bernfeld. Est-ce que c'est une dramaturge déjà ou c'est plutôt quelqu'un qui a vécu semblable expérience et qui voulait avoir l'occasion de parler?
Alors, Karine, elle est comédienne, donc elle est auteure.
Elle est déjà auteure.
De romans.
Ah oui.
Plutôt de romans, plutôt de. Donc elle est surtout connue pour 2 romans. Et puis, elle est comédienne. Mais c'était la première fois qu'elle écrivait pour le théâtre. Elle a écrit ça sous forme de monologue. Et c'est vrai qu'il y a quand même vraiment une prise de parole qui est personnelle. Alors, c'est pas autobiographique. Il y a des éléments. Je crois qu'il y a des éléments qui sont autobiographiques, mais elle préfère ne pas le dire, et donc je respecte ça, et je me dis, moi je m'empare de ce texte en me disant que c'est une fiction. Je sais qu'il y a des choses là-dedans qui soit qu'elle a vécu, soit qu'elle a connu, ou elle a connu des gens qui ont vécu ça. Mais donc oui, il y avait, au départ de cette écriture, il y avait quand même juste une envie de prendre la parole, et puis moi je suis tombé sur ce texte, et je l'ai porté à la scène.
Qu'est-ce qu'on peut dire brièvement en termes de synopsis, sans rien dévoiler? Parlez-moi de ce personnage d'Estelle un peu. Comment on la trouve au départ du monologue?
Alors, dans ce que moi j'en ai fait, c'est une jeune femme qui est un peu abîmée, qui est un peu brisée, qui se décide à parler, qui prend la décision de parler. On ne sait pas trop si on est dans un commissariat et qu'elle vient porter plainte, ou bien si c'est une espèce de conférence. Voilà, mais en tout cas, on a cette jeune femme qui vient et qui commence à nous raconter son parcours, qui l'a donc mené à être dans des films pornographiques et petit à petit dans des films de plus en plus trash où elle a vécu des violences. Et elle va nous raconter tout ça, à la fois pour pouvoir se libérer, pour ouvrir la parole, mais aussi parce qu'il y a besoin d'en parler. Donc il y a quelque chose qui n'est pas... C'est pas un psychodrame de quelqu'un qui vient nous ressasser ses malheurs. C'est une prise de parole qui est nécessaire. Ça, c'est évidemment... Enfin, c'est ce que moi, je pense. Et du coup, c'est comme ça qu'on l'a... Que nous, on l'a créé. C'est comme ça que nous, on l'a mis en scène avec la comédienne, de dire en fait c'est aussi une parole qui, même si elle est à certains moments très dure, est utile, est constructive en fait, parce que il faut que les gens entendent ça, il faut qu'on en parle sur la place publique, et donc cette parole est nécessaire. Et donc on a cette jeune femme qui va nous parler de son parcours, de comment elle s'est retrouvée là-dedans, de pourquoi elle a continué. Voilà, après, je vais pas raconter l'histoire, parce que sinon, en effet...
Non. Mais il n'en demeure pas moins que si une jeune fille commence à tourner des films à l'âge de 17 ans, c'est que déjà, beaucoup plus jeune, à l'âge de 10 ans, elle peut devenir accro aux images.
Oui, c'est ça. Et alors ça, c'est un élément qui est très intéressant, qui, moi, m'a vraiment bouleversé la première fois que j'ai lu ce texte. C'est que... Donc ici, on a une jeune femme qui, en effet, très tôt, devient accro à la pornographie. Elle a subi des attouchements et elle devient accro. Et moi, après, par rapport au spectacle, j'ai aussi voulu développer cette dimension-là. Pas que par rapport à elle, mais par rapport à la pornographie en général, d'avoir aussi un regard avec de l'empathie sur les consommateurs qui sont prisonniers d'une certaine addiction, parce qu'en fait il y en a beaucoup. Moi, j'ai un moment, j'ai un peu cherché, j'ai un peu été voir sur des blogs, sur des forums, des gens qui parlaient de ça. Et en fait, des gens qui sont vraiment accros au porno, il y en a beaucoup, pour qui c'est une souffrance, pour qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui se retrouvent à regarder des choses qu'après ils regrettent d'avoir vues. Et donc cette dimension-là m'intéressait aussi, pour pas non plus être dans un dans juste une dénonciation qui alors aurait pu passer pour un peu manichéenne, de dire bon bah voilà, oui il y a des violences qui sont subies sur les tournages et qu'on voit à l'image, mais je voulais aussi avoir de l'empathie sur ceux qui regardent ça.
Et c'est une jeune fille qui n'était pas sans ambition. Elle semblait aimer la littérature et se dirigeait peut-être dans cette voie-là.
Oui, tout à fait. C'est intéressant aussi de parce que ça évite de comment dire d'avoir un cliché de parcours.
Oui.
Ici, on a un parcours très étonnant. On a quelqu'un qui a une éducation. Et qui en effet voudrait faire du théâtre, et puis qui à un moment va basculer, va rencontrer les mauvaises personnes, se faire exploiter, et puis partir dans quelque chose. Et elle comprend pourtant parce qu'elle est intelligente, elle comprend à un moment ce qui est en train de lui arriver. Mais moi, voilà, il y a cette dimension de quelqu'un qui aussi à un moment est dans une spirale d'autodestruction. Je trouvais ça intéressant parce que ça permet aussi de questionner la notion de consentement dans ces cas-là.
En tout cas,
de la rendre complexe, de rendre la chose complexe, en expliquant que parfois quelqu'un se laisse faire, mais pour des raisons psychologiques qui sont assez désastreuses. Enfin, en tout cas, ça permet de complexifier, de pas juste dire bah oui, bah voilà, elle a choisi, personne l'a obligée à venir sur le tournage. Personne ne l'a obligé à continuer. C'était aussi d'explorer un peu tout ce qui est en dessous de ça, dans la psychologie humaine, dans ce qui peut être très complexe.
Et je reviens sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire à l'autre bout du film ou du vidéo commercial, tout ça, c'est consommateur. Et puis, elle va donc souffrir aussi de savoir que partout sur la planète, des hommes peuvent... Et le mot est là, se masturber devant elle, à cause d'elle.
Oui, et c'est...
C'est une souffrance supplémentaire.
Oui, et c'est très troublant aussi comme réflexion sur le monde, et sur la façon dont ça fonctionne aujourd'hui, de se dire, elle subit un moment un tournage qui se passe mal, parce que c'est trop brutal, et que ça finit par la blesser, et qu'après elle va voir qu'en fait ce film a été téléchargé des milliers de fois, et que donc elle sait qu'il y a des gens qui ont regardé ça et qui sont masturbés devant ça. Moi, je trouve ça vertigineux en fait comme pensée, surtout qu'en étant voilà, moi je suis un homme, j'ai consommé des contenus pornographiques à une époque, et du coup bah tout d'un coup, j'ai un vertige aussi sur ce que j'ai pu regarder sans spécialement faire attention, ou j'ai pas toujours réfléchi à ce que j'étais en train de regarder. Et voilà, le spectacle est vraiment, en tout cas pour moi, né de ça, est né de ce vertige-là, de cette envie de partager ça.
Et dites-moi, votre comédienne, est-ce à nouveau Émilie Marchal qui était avec vous en mai dernier?
Oui, c'est oui. Émilie Maréchal, oui. C'est...
Maréchal, oui. Et vous, donc, parlez-nous un petit peu de votre travail de metteur en scène, qui est à la fois, justement, de mise dans l'espace, de direction de cette comédienne-là, mais aussi de l'utilisation de vidéos.
Oui. Alors ici, c'est un texte... c'est très délicat, évidemment, d'aborder un sujet comme ça. Donc, ma première priorité, c'était la sobriété, c'est-à-dire de rester sobre tant au niveau de ce que je vais montrer que de comment je vais diriger la comédienne, de quelles émotions elle va sortir pour que ça ne devienne pas insoutenable pour le spectateur. J'ai travaillé vraiment sur euh, sur une direction vers un témoignage, mais quelque chose de très simple avec un micro. Essayer d'être le plus simple, avec quand même une part de pudeur que je trouvais importante, pour avoir un déballage gratuit.
Bien sûr.
Et donc c'est vrai que je vais dire 80% de mon travail de mise en scène, c'est la direction d'acteurs. C'est parce que moi, c'est ça que j'aime.
Ben oui.
J'ai une formation d'acteur au départ. Et puis après, il y a autour de ça, moi, donc j'avais envie aussi d'explorer en effet le côté des consommateurs qui n'est pas dans le texte. Donc j'ai fait un travail vidéo là-dessus qui complète et rythme le spectacle, la partie scène, c'est-à-dire un travail vidéo que j'ai fait avec plein de comédiens professionnels ou amateurs, avec des hommes, des femmes, avec des ados, avec des enfants même, où je leur ai demandé de faire comme s'ils regardaient de la pornographie. Et évidemment, on ne voit pas ce qu'ils regardent, mais on les voit comme si nous, on était l'écran. Et alors avec eux, j'ai travaillé sur ça, on a exploré des choses par rapport à l'addiction, par rapport à la découverte, par rapport aussi au fait de ne pas trop se poser de questions parce que on n'est pas dans cette énergie-là à ce moment-là. Ça m'a permis vraiment de développer tout ça. Et donc ces vidéos-là permettent aussi de respirer un peu pendant le spectacle et de complexifier encore justement l'ensemble de ce qu'on dit, l'ensemble de la réflexion. Pour pas être juste du côté de la comédienne.
Et en terminant, vraiment, est-ce que ce que le personnage d'Estelle représente, c'est quelque chose qui vraiment s'aggrave ces temps-ci, chez vous en Belgique, à Bruxelles et ailleurs? Parce que chez nous, il y a une série dramatique qui s'appelle Fugueuse, qui fait tout un malheur, tout un tabac présentement, surtout depuis la semaine dernière, où il y a un épisode de viol collectif. Et là, c'était comme un mal nécessaire pour le cinéaste, le réalisateur télé et l'auteur.
Oui.
Mais le public ne savait pas trop quoi en faire. Il ne savait pas trop comment réagir à ça.
Oui. Je ne sais pas si c'est... Enfin, moi, j'ai l'impression... Je ne suis pas spécialiste, mais c'est vrai que j'ai l'impression de voir souvent des faits divers qui parlent de ça et qui me font penser à la pornographie, en effet, des viols collectifs, ou des viols qui sont filmés, ou toutes des choses où je ne peux pas m'empêcher de me dire que ça a un lien d'une manière ou d'une autre avec le fait que la pornographie soit omniprésente sur Internet et tout le temps regardée. Et donc c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Dans le vocabulaire aussi, je trouve, la pornographie développe tout un vocabulaire qui est quand même très, très agressif.
Il y a une violence dans les mots,
oui,
toujours dans l'anglais.
Il y a vraiment une violence. Il y a une violence dans les mots. Et ça, je trouve que ça déborde. J'ai l'impression que ça déborde de plus en plus et qu'il est temps d'en parler, qu'il faut en parler, en tout cas. En parler, je pense, c'est vraiment la chose la plus importante. Il faut en parler, il faut dire les choses, il faut dire cette violence-là pour que après chacun puisse y réfléchir et que la société puisse gérer ça, parce que je pense que beaucoup de gens ne sont pas d'accord en fait avec ça. Mais il faut en parler, parce que sinon, personne ne fait rien.
Alors donc, La Beauce Rideau se déroule du 11 au 15 février. Nous aurons l'occasion de voir ce spectacle du projet Cryotopsie Plainte contre X, mise en scène d'Alexandre Drouet. Merci beaucoup, Alexandre, de nous avoir consacré ces quelques instants. Et on se verra à l'événement. D'accord.
Okay,
merci. Bye.
Merci. Au revoir.
Au revoir.